Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Il y a encore une fois cette semaine, on a fait des pieds et des mains pour être en mesure d'avoir un autre invité de qualité. Et là-dessus, je dois souligner la belle passe sur la palette que nous a fait Daniel Carosella. Salut Daniel!
Tu sais Jean-Benoît, ça fait plaisir de pas jouer à l'aveuglette avec toi.
Une belle passe à la palette, on est allé se carrer direct dans le net. Et notre compagnon de trio, tu sais, continuer l'analogie avec le hockey, Luc Desormeaux qui était aussi avec nous encore une fois cette semaine.
Salut Jean-Benoît, moi je fais des passes d'un patin.
C'est correct, tu sais, ça déjoue l'adversaire.
Ouais, ou des fois ton coéquipier.
Aussi, ça fait partie de la game. Et cette semaine, l'invité, on a avec nous le directeur régional de Microsoft pour le Québec, Mario Cocoluzzi. Bonjour, Monsieur Cocoluzzi.
Bonsoir, messieurs.
Question de ne pas m'enfarger la langue tout le long de l'entrevue. Est-ce que je peux vous appeler Mario?
Deux choses. Tu peux m'appeler Mario et tu peux dire tu, s'il vous plaît.
C'est correct. J'ai juste été bien élevé. Ça fait partie de la game. Donc, Mario, un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour être avec nous dans le cadre de l'émission aujourd'hui. Je suis convaincu que tu as énormément de travail sur les bras dans les prochains jours et dans les prochaines heures avec la venue de la nouvelle console de Microsoft, la fameuse Xbox One. Comment ça va, là? Ça ressemble à quoi l'horaire d'un directeur régional de Microsoft à une dizaine de jours de la sortie d'une console?
Comme on dit, pas mal occupé. Donc, en fin de semaine, on a commencé vendredi l'émission de Denis Talbot, donc Monsieur Net. C'est à ce moment-là qu'on a réellement parti le bal. Et ce qui est arrivé, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait démontrer c'était quoi la Xbox One. Et par la suite, c'est là qu'on a commencé le programme à Montréal qui était Xbox One Source. Et c'est quoi Xbox One Source? Bien, si on tourne un peu en arrière, on a commencé ça à Vancouver. On va visiter une couple de villes. Et l'objectif, c'est d'arriver avec une super grosse Xbox One. Et on demande aux gens de venir nous voir sur place ou encore aller sur leur Xbox ou encore sur Internet et de tout simplement mettre leur gamer tag. Et le but, c'est d'énergiser la Xbox. Et la minute qu'on a un certain nombre on l'a énergisé à son plein maximum, mais là, la Xbox va s'ouvrir et il y a des surprises. Donc, à Vancouver, le 24 novembre, mais à Vancouver, vu que c'était très proche de l'Halloween, on a sorti des zombies et c'était réellement pour promouvoir Dead Rising 3. Et quand on a fait ça à Montréal, on s'est dit, c'est quoi que le monde à Montréal trip quand tu y penses? On est des amateurs de Formule 1, on aime la course automobile. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Forza Motorsport? Donc, les gens ont eu l'opportunité de voir certaines Lamborghini. Et il y en a même, il y a une trentaine de personnes, parce qu'on avait un petit concours, qui avaient la chance d'aller sur le circuit Gilles Villeneuve et être un passager dans une Lamborghini sur la piste.
Sur la coche, hein? Assez plaisant. Puis un événement comme à Toronto, vous êtes tous couchés genre à 6 heures, puis c'était tranquille, c'est ça, hein?
Aucun commentaire.
C'est une blague, bien sûr.
Exact.
Donc,
mais Mario, t'imagines-tu si, mettons, là, vous aviez ouvert la console puis vous aviez dévoilé un nouvel gros attaquant pour le Canadien? Ça, j'avoue que...
Je ne rentrerai pas dans toute l'ironie de M. Coderre, donc je vais pas venir loin de ça.
C'est bon, pas de trop.
Aussi, j'en ai des opinions là-dessus.
Question comme ça, en commençant l'entrevue, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit peu la genèse de cette nouvelle console, la Xbox One, en commençant par le développement. Depuis quand les gens de Microsoft travaillent sur cette nouvelle génération de consoles?
J'ai pas nécessairement la date précise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Microsoft investit environ plus de 9 milliards de dollars en R&D de façon annuelle. Donc, souvent, les technologies qu'on va y retrouver dans certaines de nos logiciels, de nos plateformes hardware ou quincaillerie, qu'on peut dire, c'est souvent, là, vont partir de cette table-là, de ces discussions-là ça peut arriver à différentes dates. Mais quand on travaille, c'est pas comme un logiciel. Exemple, quand tu sors Windows 8.1 ou encore Windows 7. L'équipe a commencé tout à travailler sur la prochaine version, la prochaine itération. C'est tout à fait normal. Au niveau d'une console, mais elle a une durée de vie quand même de 7 ans. C'est une quincaillerie. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de faire des améliorations. Si vous retournez avec la Xbox 360, on a changé un petit peu, la façon dont on avait fait les composantes après un certain laps de temps, basé sur du feedback qu'on avait reçu et tout. Donc, j'ai pas une date précise, mais c'est sûr et certain que ça, c'est un produit, quand on regarde, elle vient de sortir, c'est quelque chose qui est en développement depuis quelques années, c'est sûr et certain.
Hey, j'ai encore ma vieille Bertha, la beige, là. Je l'ai encore, puis elle marche super bien.
Ah, ça va super bien, c'est, regarde, moi, j'en ai eu plusieurs, je devrais dire, là, parce que le fait de travailler chez Microsoft, mais c'est une excellente console, puis quand on regarde les développeurs de jeux, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire, de maximiser réellement sur cette console-ci, on a eu d'excellents jeux.
Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas commencé à travailler sur la Xbox 2?
Xbox 2, non. Pas à ma connaissance, je pense pas.
Est-ce qu'il y a des pépins que vous avez vécu dans le cadre du développement? Je sais que c'est quand même assez précis, mais tu sais, veux pas, le développement, c'est sur de longue haleine. On commence de zéro, puis faut construire ça. Y a-t-il des choses qui ont vraiment été plus compliquées que d'autres dans le développement? Des trucs que vous avez dû surmonter pour arriver au résultat que vous allez nous présenter le 22 novembre?
C'est sûr, regarde, moi, je travaille pas dans le studio, par exemple, au niveau du développement de la quincaillerie. Donc, c'est difficile pour moi de dire oui, non, quoi que ce soit. Par contre, j'ai une expérience j'ai beaucoup d'expérience dans le développement de logiciels ou encore dans le domaine du service. Et j'ai aussi des contacts qui travaillent avec les gens de Corp à Xbox. Et c'est sûr et certain qu'il y a eu des défis de taille. La première, tu changes l'architecture. Donc, l'architecture qu'on a avec la Xbox One est totalement différente que Xbox 360. Donc, c'est sûr, ça amène, par exemple, de nouveaux défis. L'autre chose aussi, retourner une couple d'années en arrière avec la 360, on ne peut pas dire que l'info nuagique ou le cloud était réellement présent. Il était là, mais comment qu'on l'utilisait, comment on maximisait sur le cloud, c'était très limité et tout. Aujourd'hui, ça nous apporte d'autres facettes de comment on peut réellement maximiser sur cet environnement-là de cloud pour donner une expérience de jeu qui est encore plus extraordinaire. Donc, ça amène encore là d'autres défis. Comment on intègre le cloud là-dedans? Donc, c'est sûr et certain à travers tout le processus de développement. Les différentes équipes ont eu à travailler, dans certains cas, des miracles et d'avoir beaucoup de persévérance. Puis je vous dirais que ça va être comme ça jusqu'à la fin. J'ai eu la chance, moi, à un moment donné, de quitter Microsoft pendant 4 ans pour aller dans le jeu vidéo, pour y revenir chez Microsoft en 2008. Et quand j'étais dans le jeu vidéo, des fois, tu avais ton jeu, tu dis « My God, il ne pourra pas sortir, ça va être impossible. » Et la persévérance, la contribution, l'effort incroyable des gens, des développeurs qui vont travailler là, jour et nuit pour arriver à la fin, pour livrer quelque chose de qualité, c'est extraordinaire.
Écoute, Mario, depuis le dévoilement de la Xbox One, il y a eu différents commentaires. On le sait que Sony a fait une assez grosse impression au niveau du E3. Et puis, il s'est passé quand même quelques mois. Toi, en tant que directeur régional, c'est quoi le pouls que tu as eu du public? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, changé au fil du temps? Puis, tu sais, Jean-Benoît l'a dit tantôt, on est à peu près une dizaine de jours du lancement. C'est quoi, là, toi, ton feeling au niveau du public là, en ce moment par rapport à la Xbox One?
Moi, je vais mettre des mots dans ta bouche, excuse-moi, parce que je pense que c'est important. Je pense où tu veux aller avec ça, c'est on a annoncé le DRM. Donc ça, c'est une des choses qu'on avait annoncé au E3. On a annoncé que ton système aussi devrait toujours être connecté à Internet. Ça, c'est surtout ces deux éléments-là qui, selon moi, n'a pas bien passé lors du E3. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est que premièrement, ces deux choses-là, ils ne sont plus partie présente de la Xbox One. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de DRM et tu vas être capable de jouer à tes jeux offline. Tu n'es pas obligé d'être connecté sur Internet tout le temps. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire. Là, j'aimerais revenir sur le pourquoi qu'on a fait ça. Puis, au bout de la ligne, c'est ce que je parlais avec Denis à un moment donné. Ça, c'est pas quelque chose que Microsoft a dessiné dans son sous-sol, a dit « Hey, ça serait le fun de faire ça. » À un moment donné, tu travailles avec la communauté et tu dis « Tiens, la communauté dit « Ça serait une maususe de bonne idée de faire ça. » Parce que, soyons honnêtes, messieurs, quand tu vends une copie, si j'en vends une copie à Jean-Benoît, et Jean-Benoît prend sa copie, la revend, et après ça, c'est Daniel qui achète sa copie, puis Luc qui prend la copie, puis après ça, c'est Mario. Ubisoft, mettons, si on prend un jeu d'Ubisoft, Ubisoft a un achat de logiciel. Il n'y en a pas quatre, il y en a un. Donc, c'est sûr et certain que ça fait mal aux fournisseurs de jeux. Donc, n'importe quel fournisseur de jeux, lui, voit son potentiel de vendre 4-5 copies diminuer peut-être à une ou à une seule copie. Ceci dit, la communauté a vu un petit peu ce qui s'est passé, que, oh my God, les consommateurs n'aiment pas ça ou quoi que ce soit. On a tout simplement changé notre tir. Puis, ce que j'apprécie de notre organisation, moi, j'étais là depuis 92 chez Microsoft, puis dans le temps, on avait des lignes 1-800 Wish Word, 1-800 Wish Excel. Tu pouvais appeler puis donner des opinions sur des fonctionnalités que tu aimerais avoir dans nos applications. Aujourd'hui, tu peux le faire sur Internet. Dans le passé, tu peux le faire au téléphone, etc., etc. On a toujours été à l'écoute de ce que les clients voulaient. Case in point, excusez en anglais, là, mais la preuve, gardez avec Windows 8 et 8.1. Les gens voulaient avoir le bouton Start, on le fait. Les gens voulaient avoir d'autres fonctionnalités, on l'inscrit, etc., etc. Dans ce cas-ci, on a entendu le feedback, c'était très fort et il n'y a pas grande organisation que je connais de la taille de Microsoft qui était capable de se revirer dans un court laps de temps et dire « OK, DRM, on l'enlève. » Et la même chose au niveau de l'Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être connecté en tout temps. Donc, moi, je suis fier de comment l'organisation a réagi. On a peut-être manqué cet aspect-là du lancement. Il y a d'autres facettes du lancement. Je pense qu'on était extraordinaires et on va en parler. Mais cet aspect-là, au moins, là, c'est réglé. Il n'y en a pas. Puis, vous allez être capable de jouer à vos jeux offline et il n'y aura aucun problème pour jouer des jeux qui sont usagés.
Moi, je me demandais, la communauté aussi a beaucoup parlé, puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui critiquent ça, la fameuse Kinect.
Oui.
On sait qu'elle vient avec la Xbox One. Est-ce que ça, puis ça, c'est des gens qui m'ont demandé ça, ils disaient tout, je me demande si, est-ce que je peux installer ma Xbox sans installer la Kinect ou il faut absolument qu'elle soit connectée, sinon la Xbox ne partira pas ou c'est une option pour les gens de la mettre ou de ne pas la mettre la Kinect s'ils ne veulent pas l'avoir?
Bonne question. Tu peux désactiver ta Kinect. Donc, si tu ne veux pas l'avoir, tu la désactives, ce n'est pas un problème. La seule chose que je te dirais, Luc, c'est que tu peux manquer de belles choses avec la Kinect. Puis, je pense que les gens, ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est puis ce qu'on veut faire, nous, c'est travailler avec l'industrie du jeu, donc les développeurs de jeux, pour s'assurer qu'ils maximise la Kinect d'une façon réellement plaisante. Il y avait Major Nelson qui donnait exemple deux, je vais t'en donner deux en ce moment qui est super intéressant. La première, il dit, man, toi, tu joues à Call of Duty, puis là, tu es en train, tu regardes, tu es avec ta manette et tout ça, puis là, tu veux mettre ton Night Vision. Juste de taper avec tes doigts sur ton temple, boum, boum, deux coups, puis boum, ton Night Vision apparaît. Tu sais, c'est des choses comme ça qui te fait, là, il y a réellement comme, j'utilise la Kinect. C'est pas juste comme, je fais des babayes ou je fais un gestuel ou quoi que ce soit. Elle fait partie intégrante de mon expérience qui est le fun. D'autres choses, à l'extérieur de la Kinect, mais quand tu rentres, mettons, parce que ta Xbox va être toujours on, comme elle va être en sleep mode, mais la minute que tu vas te mettre devant puis ta Kinect est là, automatiquement, ton profil, toutes tes préférences vont y apparaître, puis boum, tu peux commencer à interagir avec ta Kinect. Major Nelson a montré une autre affaire. Combien de fois, des fois, tu vas avoir une carte avec des points ou quoi que ce soit, ou là, ça n'a plus des points, mais une carte qui va te donner, mettons, des sous là-dedans, une carte de Noël ou quoi que ce soit. Et il y a une vidéo qui est sur son site, en l'espace de 6 secondes, il regarde, mettons, à gauche, et là, il se rapproche devant, il se met juste devant la Kinect, puis boum, on reconnaît les points, puis les points sont déjà accumulés dans notre compte. Donc, toutes ces petites facettes-là qui font en sorte que la Kinect, ça vaut la peine. Mais c'est sûr que si toi, tu dis, moi, je ne veux pas l'avoir, mais regarde, tu peux la désactiver, il n'y a aucun problème.
On ne tordra pas le bras de personne.
Non, exactement. Mais moi, je pense sincèrement, comme regarde, là, en ce moment, on est en train de faire un genre de session Skype, mais demain, je pourrais faire une session avec ma Kinect en vidéo HD, comme pensez à, mettons, je sais pas, Jean-Benoît, mettons, tes parents, toi, sont ici à Montréal, toi, tu es à l'autre bout, à Québec et tout, puis tu as un enfant, puis là, ton enfant commence à marcher, mais de dire que, regarde, tu peux avoir un vidéo chat avec tes parents en HD, puis qu'ils peuvent voir ça, donc, pour moi, je ne regarde pas juste le jeu vidéo, je regarde l'ensemble de ce que ça peut offrir, puis ça commence à être réellement intéressant. La même chose, demain, on écoute une émission de télé ou quoi que ce soit, puis je peux l'écouter sur ma Xbox One, puis en même temps, je vais faire un genre de snap, puis à côté, je vais mettre une session Skype avec toi, puis on va être capable de discuter, puis de regarder la game de hockey ensemble. Donc, toutes des petites choses comme ça qui fait que c'est intéressant à cause de la Kinect, mais si jamais la personne a dit « moi, je ne la veux pas pour toutes les bonnes raisons du monde », vous n'êtes pas obligé de l'activer.
Puis non, c'est parce que moi, j'ai des gens qui disent, puis même moi, je l'ai expérimenté, avec l'application YouTube, tu regardes une vidéo sur YouTube, tu montes un film d'animation, quelque chose de même à mon fils, puis à un moment donné, il commence à parler, puis là, la Kinect, elle pense qu'elle reconnaît une commande, puis elle sort du vidéo, puis elle s'en va ailleurs. C'est comme, OK, tu sais, fait que il y a des gens, peut-être que c'est pour des choses comme ça, qui veulent enlever la Kinect ou ils aiment juste pas ça. C'est juste vraiment pour savoir si la Xbox One allait quand même démarrer si elle détecte pas la Kinect branchée ou des choses comme ça. Ou j'imagine un coup qu'on est dans la console, on fait juste la désactiver. Là.
Exactement. Donc, il n'y aura aucun trouble à ce niveau-là.
L'autre question que je me posais, c'est Microsoft s'en va beaucoup vers... le divertissement complet, ça veut dire oui, les jeux vidéo c'est quelque chose, mais là on parle de Xbox, la télé à travers la Xbox puis tout ça. Mm-hmm. Il va y avoir des services offerts au Canada aussi ou ça va être majoritairement aux États-Unis puis au Canada on n'aura pas la chance d'avoir grand chose?
OK. Très bonne question. Puis tu sais, ce que je vais dire à ce niveau-là, c'est quand tu dis bon, il y a le divertissement et tout. Nous, ce qu'on dit à tous les gens que je rencontrais, c'était Xbox One, il y a une raison pour laquelle on appelle ça One, c'est un tout. Donc la beauté de Xbox One, c'est que, un, on veut offrir les meilleurs jeux sur une console. Donc, quand on pense à des titres comme Rise, Son of Rome, Forza Motorsport, il y a Halo qui va s'en venir, il y a Titanfall qui a gagné plusieurs récompenses. Donc, l'aspect jeu va être toujours et va être encore très, très, très important, des gros jeux et de bons jeux. Par le deuxième point, ce qu'on dit souvent, c'est que nous autres, je m'excuse, je respecte la compétition avec toute sincérité, mais il n'y a pas personne qui peut donner une expérience live comme Microsoft peut le faire. On a l'expérience là-dedans depuis plusieurs années. Notre Xbox Live, les gens, quand on joue à Xbox Live, on a réellement, on sait que l'environnement est sécuritaire, on sait que l'environnement va permettre aussi, va éliminer tout l'aspect de cheat pour s'assurer qu'on joue, on a un jeu qui est équitable et tout. Donc ça, l'expérience live va être très dure à battre. Le troisième point que je mentionne souvent, c'est l'aspect divertissement, entertainment. Donc on veut réellement maximiser, on veut réellement que la Xbox One rassemble tous les membres de la famille. Donc, ici, on va être capable d'avoir certaines applications, on va être capable d'avoir des Skype chat, des vidéos chat, etc., etc., mais on va être aussi capable d'intégrer la télévision. Tu as raison, aujourd'hui, en partant, c'est-à-dire le One Guide tel qu'on veut le voir, va être surtout up and running, va être en marche aux États-Unis et nous autres, ça va arriver en 2014. Mais notre objectif, c'est de travailler avec les fournisseurs tels que Vidéotron, Bell et TELUS pour s'assurer qu'on ait le même type d'expérience au Canada qu'on peut l'avoir aux États-Unis. Il va y avoir des différences. On le sait aujourd'hui, si j'ai Netflix au Canada et si j'ai Netflix aux États-Unis, j'ai pas le même catalogue. Donc mm-hmm. Ça, ce sont des choses qui font partie intégrante. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de travailler beaucoup avec des firmes locales pour avoir du contenu local. Donc, exemple, si on regarde Tout TV, qui est aujourd'hui sur la Xbox 360, et quand je parle à Radio-Can, eux autres, ils pensaient pas que ça serait réellement quelque chose d'extraordinaire d'avoir une Tout TV sur Xbox, mais c'est peut-être l'endroit où aujourd'hui, il y a plus de gens qui visualisent Tout TV. Pourquoi? C'est le marché cible qu'ils ont. Donc, souvent, ces jeunes-là qui sont sur leur TV, « Hey, Tout TV est là, on va regarder une émission UT9 ou quoi que ce soit », ça fonctionne.
Et c'est un écran de salon aussi. Comparativement à une tablette, un ordinateur, quelque chose comme ça.
Exactement. Puis l'autre volet qu'on dit souvent, c'est l'innovation. C'est tout ce qu'on peut amener au niveau, le quatrième point, l'innovation. Là, on fait référence à The Cloud, on fait référence à la deuxième écran. Donc, pour tous ceux qui ont une tablette aujourd'hui, que ce soit un iPad ou que ce soit encore là une Surface, ou encore même un téléphone, on a par exemple une application qui est Xbox Smart Glass. Puis là, ce qu'on est capable de faire, c'est d'étendre l'expérience qu'on a au niveau de notre télé sur une tablette, sur une Surface ou encore sur un téléphone. Donc, c'est réellement ces quatre composantes-là d'avoir des jeux exceptionnels, une expérience live qui est incroyable, intégrer tout le divertissement puis maximiser ces nouvelles technologies.
Est-ce que les abonnements sur la Xbox One vont être encore payants comme c'est le cas actuellement sur la 360?
Donc, tu fais référence quand tu dis les abonnements au Xbox Live à 80$?
Oui, exactement, le Gold.
Oui. Exactement, oui. Et ça va te permettre, exemple, si tu veux faire du vidéo chat, tu n'auras pas le choix d'avoir un abonnement à Xbox Live Gold. Donc, ça ne changera pas. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que vous ne le voyez pas. Vous, ce que vous faites, c'est que vous jouez au jeu, vous avez une expérience plaisante, c'est le fun. Mais ce que ça prend comme en arrière pour s'assurer que les serveurs sont open running, qu'il n'y a pas de downtime, qu'il n'y a pas de lag time, etc., etc., ça demande un certain entretien. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous, on veut s'assurer qu'il y ait une qualité de service. Donc, comme on dit, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est bon, qui est gratuit. Donc, nous, on veut s'assurer qu'on continue à garder ce niveau de service-là.
J'aime la nuance qui est bon.
Ouais, exactement, absolument.
si on fait juste rester sur le... juste pas partir de l'abonnement, j'ai quelqu'un qui m'a demandé ça, justement. Il veut s'acheter une Xbox One. Il y a une Xbox 360. Les abonnements vont pouvoir se faire sur les deux consoles ou ça va prendre un abonnement par console? Puis, est-ce qu'on va aussi... mettons, moi, présentement, j'ai un compte pour moi, j'ai un compte pour ma femme. Moi, je suis Gold. Ma femme est juste Silver parce qu'elle ne veut pas payer 80$ par mois pour ça. Est-ce qu'on va pouvoir un abonnement pour la console et non pas par gamertag dans la Xbox One? Ou?
Tu vas avoir pour toi un abonnement qui va te suivre. Donc, si tu l'as aujourd'hui sur la 360 et demain, tu as ta Xbox One, mais automatiquement, tu vas l'avoir sur ta Xbox One. Donc, ça, c'est pas deux abonnements, c'est un abonnement. Ça suit ton gamertag. Et la beauté là-dedans, c'est que si, mettons, moi, je suis à Montréal, toi, en ce moment, tu es localisé où?
Moi, je suis dans le coin de Valleyfield-Saint-Zotique.
Coin Valleyfield, Saint-Zotique. Bon, ben, gabin ça, demain, tu es en train de jouer un jeu. Puis là, je te dis, viens à la maison, puis tu as commencé ton jeu. Le power du cloud avec ton gamertag, tu arrives chez nous, tu rentres tes choses, automatiquement, tu peux continuer à jouer ton jeu sur ma console, puis tu vas avoir tes achievements, puis toutes tes choses comme ça. Donc, on veut réellement amener toute cette possibilité-là des nouvelles technologies de l'info nuagique et du cloud. Et avec ton gamertag, tu vas être capable de transporter ça un peu partout.
Hey, le power du cloud, même à Saint-Zotique, c'est fort. Hey,
c'est loin pour avoir le power du cloud. Mais on continue avec un abonnement gold par gamertag. Non pas par console.
Exactement.
OK.
J'ai une petite question au niveau des achievements, justement, tu sais, que tu disais. Ça va fonctionner comment, là, au niveau de la Xbox One? Est-ce que, bon, tu sais, on le sait, on a investi beaucoup d'heures pour avoir un certain gamer score. Est-ce que ça va nous suivre? Puis, c'est quoi le genre de nouveauté qu'on peut s'attendre avec les achievements au niveau de la Xbox One? Je sais que, à un moment donné, Microsoft avait parlé, entre autres, de récompenses réelles plutôt que juste des points, ou en tout cas, je sais qu'à un moment donné, il y avait comme une initiative au niveau d'objets pour ton avatar. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui s'en viennent?
Disons que j'ai pas tous les détails de ça. La seule affaire, un, c'est sûr et certain que parce que tes achievements sont réellement liés à ton gamertag, ils vont te suivre. Donc, automatiquement, tu ne repartiras pas à zéro. Donc, ça, c'est la beauté de ça. Deuxièmement, au niveau de quel type de récompense qu'on veut donner, ça, on est toujours à la recherche de voir mais quelles sont les choses que les gens vont apprécier, vont aimer. Puis en même temps, il y a les développeurs de jeux qui ont cette liberté-là. Donc, il n'y a rien qui empêcherait. Moi, j'aimerais ça voir ça à un moment donné où est-ce que les gens qui font certains achievements et tout pourraient être accumulés puis être éligibles à un tirage. Puis là, les personnes pourraient aller, mettons, au E3 de Los Angeles. Tu sais, des choses comme ça, il n'y a rien qui empêche ça. Donc, ça devient un peu ce que l'organisation veut y faire ou quoi que ce soit. Donc, il va en avoir. On l'a vu, le pouvoir des achievements, c'est incroyable. C'est ce qui fait en sorte des fois que les gens vont rejouer la même map 20 fois juste pour s'assurer qu'on l'a fait au bon moment, au bon niveau, on est gold puis on a le maximum. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui focalisent là-dessus. On va continuer d'enrichir les achievements.
Ben, je pense que, en fait, sans vouloir paraître têteux ou whatever, mais je pense que vous avez quand même. Ben, vous avez instauré un certain standard. Tu sais, je me rappelle quand la Xbox 360 est parue, les achievements, ça n'existait pas. Puis là, aujourd'hui, ben, Sony en a intégré dans la PS3, Steam en a maintenant aussi, puis les gens en veulent des achievements, tu sais, pour eux autres. Ben moi, je trouvais que c'était une belle façon d'explorer un jeu au complet. Fait que, ben,
c'est un beau, ouais, c'est comique que tu dises ça, parce qu'en ce moment, je te dirais que il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, pas dans là, ça n'a rien à voir avec la console, là, mais si vous regardez, il y a une demoiselle, son nom c'est Joan McConnachal, elle a fait, elle, un livre sur Reality is Broken, puis ça parle tout de la gamification, et le concept de gamification, c'est exactement ça. Exemple, mettons, vous avez une petite famille de quatre, puis on a le ménage à faire, puis il n'y a personne qui veut faire le ménage. C'est pas évident de motiver les gens à faire le ménage. Donc, eux autres, le concept de gamification, c'est que, écoute, si tu fais ta chambre, je te donne 10 points. Si tu sors la vaisselle du lave-vaisselle, tu as un autre 10 points. Puis là, à fin de compte, il va y avoir des récompenses à la fin en fonction des points que tu montes. Mais guess what? La toilette, elle vaut 60 points. Et quand ils ont fait tester ça dans des familles, la chambre qui était lavée la plus rapidement, c'était la toilette. Parce qu'au lieu de faire 6 chambres, j'en faisais une, puis c'était fini. Donc, c'est réellement le concept d'achievement. On dirait que ça fait partie de notre ADN en tant qu'humain. On aime, c'est comme des objectifs, puis on veut se surpasser, puis let's go, je vais être capable, je vais être capable. Donc, la motivation qu'on a, c'est incroyable.
Mais est-ce que, excusez-moi, c'est une autre question qui me vient, parce que, bon, Luc et Jean-Benoît...
Tu nous appelleras, Daniel, quand t'as fini, on va revenir.
Ouais, okay? Ouais, c'est beau, pas de problème. non, mais dans le fond, c'est parce que Jean-Benoît puis Luc, ils disent souvent que je suis un criminel, mais en fait, je fais des études en criminologie, donc j'ai quand même un petit peu de cours de psycho derrière la cravate. Puis, écoute, ça me fait vraiment penser à du behaviorisme pur, tu sais, dans le sens, on va... va utiliser, nous on appelait ça dans le temps, ben pas dans le temps, mais encore aujourd'hui dans
les pots d'Atico. À l'époque, tu sais, hein, quand la télé était pas en couleur.
On rajeunit pas, mais tu sais, le phénomène de la carotte au bout du bâton, tu sais, c'est-à-dire on motive les gens comme ça. Je me dis, tabarnouche, moi ça m'étonnerait pas que Microsoft aille faire appel à des psychologues, tu sais, et des psychologues en tout genre, là, mais pour finalement développer cette stratégie-là.
Ça, je peux pas répondre. J'ai aucune idée. Mais c'est sûr et certain que, je veux dire, chez nous, quand que je parle de R&D, c'est pas juste au niveau software. Tu sais, on fait des focus group, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui va motiver un joueur versus pas. Parce que ton point est bon. Je veux dire, tu peux avoir une affaire d'achievement, mais exemple, m'a donné un exemple banal comme ça. Si jamais tu perds ce que tu es en train de faire, mettons, la map ou quoi que ce soit, tu perdrais des achievements. Je pense pas que ça aurait la même motivation parce que là, les gens vont me regarder. Là, je l'ai perdu. Je trouve ça plate, mais faut-tu réellement, je suis persuadé que c'est des choses qu'ils ont vues, ou c'est que tu le fais, ou c'est que tu le fais pas, pour réellement que le gamer ou encore le joueur a réellement une motivation à se dépasser puis d'aller le faire pour aller chercher cet achievement-là. Donc ça, je suis sûr et certain que ça a été réfléchi. Comment, je le sais pas, mais je suis persuadé de ça.
Jean-Benoît, je t'appelle, là, j'ai fini.
C'est bon. Une des affaires que j'ai pu remarquer, j'ai pas fait des visites dans des studios ben souvent, mais j'ai pu aller, entre autres, voir la journée porte ouverte chez Binox. Une des choses que j'ai remarqué, c'est l'abondance de consoles Microsoft Xbox 360 dans ce studio de développement-là. Je sais pas si c'est la norme partout, mais il y avait vraiment plus de 360 qu'il y avait des autres consoles pour développer. Et c'est un peu c'est un peu commun, c'est un peu connu là, dans le domaine que l'Xbox 360, c'est la plateforme la plus facile pour développer comparativement à la PlayStation 3. Est-ce que vous avez gardé ça comme souci dans le développement de votre nouvelle console, cette facilité-là pour les développeurs de pouvoir générer du contenu pour vous autres? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez tenté de garder en tête?
La raison pour laquelle Microsoft est rendu où il est rendu, là, je parle de Microsoft dans son ensemble, c'est réellement le fait qu'on était capable de réellement de travailler de très, 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 très près avec les développeurs. Sans développeurs, Microsoft n'est pas où ce qui est rendu aujourd'hui. C'est reconnu. Je veux dire, la plateforme Windows, comme n'importe quoi, s'il n'y avait pas eu de développeurs qui développaient sur la plateforme, on n'aurait pas eu le succès qu'on a eu. Ceci dit, comment s'assurer de donner les outils, le support, toutes les choses nécessaires aux développeurs pour qu'ils puissent développer sur la plateforme. C'est encore notre objectif. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il va-tu avoir une courbe d'apprentissage un petit peu plus ardue? Oui, juste par la nature qu'on a changé l'architecture, puis qu'au bout de la ligne, on va aller avec un environnement où est-ce qu'on va maximiser, on peut maximiser sur le cloud et tout. Donc oui, ça va amener un certain niveau de complexité. Mais nous, on pense qu'avec les gens de chez Microsoft qui sont là pour supporter les développeurs de jeux, pour s'assurer qu'ils comprennent mieux nos outils, qu'on va les éduquer, toutes ces choses-là, je pense que c'est encore notre objectif. Donc c'est parce qu'on sait que des gens, on veut que les gens commencent à développer en premier sur la Xbox et par la suite, on pourra porter sur les autres plateformes. Puis là, on sait que notre jeu va être encore plus enrichissant sur la plateforme Xbox One.
Est-ce que vous avez consulté les développeurs de jeux pour savoir ce qu'eux recherchaient dans la nouvelle génération de consoles?
Ça, c'est quand j'ai remarqué ça quand c'est comique parce que là, je vais donner mon expérience personnelle. Quand moi, j'ai quitté Microsoft, j'ai été chez Ubisoft et je développais pour un des premiers jeux sur Xbox 360. Et c'était incroyable comment les ressources de Microsoft sont affectées aux développeurs de jeux, surtout ceux qui vont avoir des jeux au lancement. Donc, on veut s'assurer que les jeux, c'est pas des jeux de lancement que, oh my God, la qualité est so-so, mais on est là pour le lancement. C'est important pour eux parce que c'est ça qui va établir la norme. Que wow, là j'ai quelque chose de qualité. Parce que si le jeu que j'achète, ça a la même affaire qu'une, pas de la 360, mais que la Xbox initiale, me dit, mais c'est quoi, pourquoi qu'on a sorti une Xbox One? Donc c'est très important pour nous de travailler. Puis je te garantis, aujourd'hui, là, j'ai pas travaillé avec eux autres aujourd'hui, là, mais si tu vas voir les studios comme Ubisoft ou encore Crytek, toutes les gens qui vont avoir des jeux qui vont sortir jour 1, ils ont eu le support de Microsoft pour s'assurer que ces jeux-là soient faits d'une qualité exceptionnelle.
Est-ce que les précommandes sont à la hauteur des attentes de Microsoft pour la Xbox One?
Je vais te revirer la question. T'as-tu essayé d'en acheter une dernièrement?
Non, mais moi, je me donne un an. De toute façon, c'était déjà décidé. Moi, je suis genre à me mordre la main pour pas crier. Là, j'en veux une, mais je me donne un an fait que pour les deux consoles. Fait que j'ai pas fait mon choix encore. Fait que moi, je compte pas.
Tu seras pas capable d'attendre un an, je te dis, tu fais Jean-Benoît. Mais
si tu m'en envoies une, je vais l'avoir rapidement, il n'y a pas de problème.
Mais je te dis, en ce moment, le plus gros défi que j'ai, mettre bananette avec toi, c'est pour ça que je t'ai dit, t'as-tu essayé, toi, le gros défi qu'on a en ce moment, c'est bien les gens nous disent, OK, aussi je peux en commander une, parce que c'est sold out partout. Donc, ça, c'est le bon côté. Par contre, il y a certains magasins qui se gardent certaines quantités pour la journée du lancement, pour s'assurer que ce n'est pas des consoles qui vont être réservées. Donc ça, il y a des choses qu'on va annoncer très prochainement là-dessus. Puis deuxièmement, mais moi, ce que j'encourage les gens, je parlais de ça avec d'autres journalistes, parce que les gens disent, bon, mais là, on fait quoi s'il n'y en a pas? Je dis, allez dans des marchés ou encore dans des détaillants qui sont peut-être pas traditionnels au gaming. Donc aujourd'hui, les gens vont tout de suite aller, ah, mais je vais avoir une console, je vais aller chez EB Games ou encore je vais aller chez Future Shop et Best Buy. Moi, j'ai réservé la mienne chez Walmart, puis il y en avait, puis il y en a qui ont été sur d'autres détaillants comme ça, puis il y en avait. Donc, faut garder des fois des choses qui sont peut-être pas gaming, ceci dit, puis vous allez être surpris des fois.
Mario, mais, tu viens-tu de me dire que tu as réservé la tienne dans un magasin?
Tu veux-tu? J'en ai réservé deux dans deux magasins. Eh oui. Donc, puis ça, puis regarde, là, c'est comique, mais il y a un côté de ça, je suis content. Je vais te l'expliquer pourquoi. C'est que chez Microsoft, premièrement, oui, on voudrait tout l'avoir tout de suite, puis l'avoir à partir de Microsoft. Mais Microsoft, c'est simple, c'est que ce qui fait vivre Microsoft, ce qui fait vivre Mario et sa famille, c'est les consommateurs qui achètent les consoles. Donc, on s'est dit, on ne fait pas de parti pris pour les gens de Microsoft à l'interne. On veut s'assurer qu'il y a assez dans le marché pour desservir les consommateurs, puis vous, Microsoft, les employés, vous allez être un consommateur parmi tant d'autres, donc vous avez les droits comme tous les autres. J'ai trouvé ça, moi, ce coup, t'es frustré parce que tu dis, Colin, je suis chez Microsoft, mais en même temps, c'est la bonne affaire pour le client, parce que ça serait plate d'arriver puis de dire, oh, en fin de compte, on a vendu 45 000, on avait juste 50 000, puis c'est 45 000 de Microsoft parce qu'on était les premiers à l'acheter. C'est un petit peu frustrant. C'est comme quand t'achètes des billets de concert, t'attends en ligne, t'es le troisième, puis t'arrives, puis t'es dans le pit d'un blanc en haut, tu dis, mais comment ça? Donc, les billets sont partis où? Ça, c'est un peu frustrant, puis nous, on voulait s'assurer que les consommateurs étaient les premiers à être desservis.
Les gars, avez-vous des questions? Parce que j'irai peut-être avec celles que le public nous a envoyées.
Vas-y avec ceux du public. Au pire, si j'en ai d'autres, on ira après.
Daniel aussi?
Je vais en avoir une pour... mais en fait, pour la toute fin, parce que c'est une question classique au niveau des jeux.
Donc on va y aller avec une première question venant de nos auditeurs, nos chers auditeurs qu'on aime tellement gros. Éric Richer qui demande si les périphériques, comme entre autres un volant qui est compatible avec la Microsoft Xbox 360, va l'être sur la One. Est-ce qu'on va pouvoir passer des périphériques d'une console à l'autre?
Malheureusement, Eric, non. Ça va être des périphériques qui vont être réellement fabriqués pour la Xbox One. Donc, les accessoires qu'on va y retrouver, on fait référence souvent à les Turtle Beach. J'ai l'impression que je suis persuadé qu'à un moment donné, on devrait avoir aussi un volant pour la console. Donc, mais les périphériques qui sont Xbox 360 ne seront pas compatibles avec la Xbox One.
Simon Dubois nous demande, en fait, te demande à toi, est-ce que la manette de la Xbox One va être compatible sur PC? Et en parenthèse, il spécifie sur Steam.
Maudite bonne question. Donc, j'ai pas cette information-là. Faudrait que je la recherche comme telle.
Parce que la 360 l'est sur PC.
Oui, c'est ça, exactement. Mais là, faudrait que je regarde, parce que si on se fie sur l'ancien modèle, j'aurais tendance à dire oui, mais avant de dire oui, je vais essayer de vérifier ça, puis je vais essayer de vous revenir, Jean-Benoît, via Annie comme tel, avec cette réponse-ci. C'est une bonne question, celle-là, je suis pas trop sûr. Je sais qu'en tout cas, je vais juste vous dire une affaire, par contre. Quand les gens sont venus tester la Xbox en fin de semaine, puis qu'ils ont joué, le gros feedback qu'on avait là, sur la manette, c'était « ça n'a pas de bon sens ». Déjà là, vous aviez la meilleure manette, puis on pensait pas que vous étiez capable réellement de faire de quoi encore de plus excitant. Puis là, exemple, tu as le force feedback qui va être des triggers dans les deux côtés. Donc là, quand tu joues, exemple, à Forza Motorsport, mais c'est pas toute la manette qui va shaker, mais c'est le côté sur lequel que tu vas être, par exemple, hors circuit. Donc le monde capotait, ils ont dit, hey, c'est écœurant, j'ai jamais vu, puis elle est solide, elle est confortable. Donc je suis bien content de notre manette. La seule chose, c'est que là, je peux pas te dire si tu es capable de la prendre sur un PC. Je vais vous revenir plus tard avec ça.
Patrick Thivierge qui demande combien de temps, et ça revient à notre question qu'on avait sur les précommandes tout à l'heure, combien de temps avant que les magasins reçoivent le deuxième contingent d'Xbox One, parce que le premier, c'est déjà, on le sait, là, il va partir.
Vite. Ben, il est déjà pas mal parti. Il est déjà pas mal parti, mais ceci dit, là, j'ai vu qu'il y a des endroits qui prenaient des commandes, puis on arrivait pour le 27 décembre. Donc, tout dépendait encore là des détaillants. C'est pour ça que j'encourage les gens à aller sur le web, checker les magasins, les détaillants, les EB Games, les Microsoft Store, parce qu'il y a des Microsoft Store aussi qu'on peut commander en ligne. Il y a aussi les Future Shop, les Best Buy, mais les Walmart. Là, il n'y a plus de Kmart, mais il y a peut-être des Target ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'encouragerais les gens. Puis, je pense que notre objectif, c'est simple, c'est on veut pas faire ça en vague. On veut tout simplement s'assurer qu'on envoie des Xbox One continuellement dans le canal de distribution, de sorte à ce que les gens peuvent toujours être capables d'en avoir. Là, en ce moment, c'est la première batch, c'est toujours parce que c'est l'effet de nouveauté. Mais je te dirais, là, regarde, puis ça devrait être quand même assez rapide.
Guillaume Simard nous en a envoyé, Daniel est au courant, nous a envoyé plusieurs questions. On va y aller peut-être en rafale. Il demande si un joueur de Xbox 360 qui joue à Titanfall va pouvoir jouer en collaboration ou encore via le serveur, l'Internet, avec un joueur qui est sur Xbox One ou encore sur PC.
Ben, c'est ça, c'est comique. On a parlé de ça justement dans une autre émission. Puis j'ai bien hâte de voir si ça va être possible parce que moi, c'est la même affaire. J'en ai une Xbox 360 que mon gars joue assidûment avec Call of Duty. Puis moi, je vais avoir mon Xbox One. Puis on va voir si ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je sais que c'est quelque chose que les gens veulent. Je sais qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec la 360 et le PC. Je sais que le PC, ça n'a pas embarqué tant que ça. Donc les gens souvent restaient au niveau de la Xbox. Mais pour ça, ça va être. J'ai l'impression, moi, je voudrais dire oui, mais ça va être à vérifier lors du lancement.
Est-ce que les communications entre groupes d'amis, là, les chats vocaux, tout ça, va lui aussi être crossplay, si on peut dire, entre la 360 et la One?
Absolument. Donc, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une session Skype, exemple, sur un avec 360 puis un avec Xbox One ou encore avec PC. Donc, tu vas être capable de le faire, oui.
Et en terminant, Guillaume, il demande, est-ce que pour la Kinect, on en parlait tantôt, Luc, il disait, mon fils est en train de jaser, puis là, a comme compris de quoi, puis elle est partie. Est-ce que la Kinect va bien se débrouiller avec les différents accents qu'il y a à travers la planète, dont entre autres lui qui vient du Lac-Saint-Jean, donc pas tout le temps évident, hein?
Mais la seule affaire, je peux dire, c'est le défi, puis c'est pas nécessairement nous au Québec, qu'on vienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on vienne de Montréal. Je te dirais que c'est le même défi qu'ils ont aux États-Unis. Si vous aviez la chance des fois d'aller aux États-Unis, vous regardez dans le sud des États-Unis l'accent qu'ils peuvent avoir et celui du New Jersey avec celui de la côte américaine, la côte ouest, c'est pas la même. Ils sont très difficiles des fois à comprendre. Puis okay, ils ont le même défi. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est sûr et certain, puis je vous dirais, je suis fier de ça. Là, une couple d'années, ça fait comme quand on a sorti la Kinect, approximativement, il y a 2-3 ans, à un moment donné, on a cherché, parce qu'on avait ce feedback-là qui venait, et j'ai été sur un bêta, et mon objectif du bêta, moi, j'avais une Kinect à la maison qui n'était pas disponible encore, et il a fallu que je cherche 25 personnes qui viennent à la maison. J'avais un code spécial, et les 25 personnes, il fallait avoir des enfants de 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 et 30 and above, pour que les gens lient à l'écran les commandes. Donc, on voulait réellement se rapprocher du Québec. Maintenant, je suis pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais pas personne du Saguenay, mais ça nous aurait peut-être aidé. Puis ça, c'est peut-être le défi, c'est de s'assurer d'avoir ce portfolio d'accents qu'on peut y avoir. Comme ça, la Kinect peut comprendre tout type d'accent.
Ouais, je nargue Guillaume parce que je viens moi-même du Lac-Saint-Jean. C'est pour ça que j'ai mis l'accent là-dessus.
Faut que si la Xbox One comprend Xbox, allume-toi là.
On va être
allume-toi là.
On va être en business. Donc, ça fait le tour pour les questions de l'auditoire. Un gros merci à ceux-ci de nous avoir envoyé leurs questions. Puis j'espère qu'ils ont eu réponse à leur interrogation. Il y a peut-être juste, la question là, à propos du crossplay entre la One et la 360 là, qui est en suspens.
Exactement. Il y en a deux qui sont en suspens. Je vais vous revenir, messieurs, là-dessus.
Parfait.
Ceux qui cherchent une Xbox, je suis allé faire un tour un peu partout ces sites, puis il n'y en a pas nulle part. Mais je l'ai trouvé sur Amazon.ca, des revendeurs, là, des compagnies qui vendent à travers Amazon. Ben oui, la moins chère est 900$ plus 4,99$ shipping. Et puis, il y en a un qui avait 1499, mais il donne le shipping, au moins, c'est pas si peu. Puis, il y en a un autre 1499, puis c'est 4,99 de shipping. Fait que quelqu'un qui en veut vraiment une, il y en a, là.
C'est possible.
Ou vous attendez un peu que ça vienne dans des places plus... qui ont plus d'allure, puis vous n'achetez deux pour ce prix-là.
Ouais, c'est ça. Puis tu n'en revends une à ce prix-là.
Ah, c'est ça. Ben moi, j'ai deux 360 chez nous. Fait qu'il va bien falloir que je m'achète deux Xbox One pour les remplacer.
Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça.
Un consommateur averti.
Ouais, je suis un joueur Microsoft. Je suis un joueur de Xbox. Moi, j'ai la manette, la PlayStation. Je sais pas, je me suis jamais habitué. Puis j'aime la manette de la Xbox. Comme tu disais tantôt, Mario, les gens ont dit que la nouvelle manette d'Xbox était le fun, était bonne. Ben moi, j'aime la vieille manette d'Xbox. Je trouve tellement qu'elle se prend bien en main. Je suis habitué, je suis confortable avec cette manette-là. Fait que j'ai vendu ma PlayStation 3 pour m'acheter une deuxième 360.
Mais là, Mario, ça tu disais, dans le fond, le force feedback, il va vraiment s'aligner avec ce qui se passe dans l'écran.
Exactement.
Fait que dans le fond, tu vas avoir des émotions en bonne place, là, Luc.
Ah, ça va être le fun. même si je sens un peu de crochitude dans ce que tu dis.
Pense ce que tu veux maintenant.
Hey, j'avais une question pour toi, Mario, peut-être plus globalement, sur la compétition dans le domaine des consoles de salon. Il y a Steam qui a fait une annonce pour la fameuse Steambox qu'éventuellement ils voulaient voir arriver sur le marché, voulaient développer. Vous en pensez quoi chez Microsoft de ce nouveau compétiteur qui pourrait sortir pratiquement de nulle part?
Ben, moi, je pense pas qu'ils sortent pratiquement de nulle part. Je pense qu'ils ont une crédibilité quand même assez importante dans l'industrie.
Ouais, mais pas dans la console de salon. C'est dans ce sens-là que je disais qu'ils sortaient de nulle part. Parfait. C'est un nouveau développeur, là.
Exactement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est la façon, chez Microsoft, tout compétiteur, dans n'importe quel vertical, que ce soit, par exemple, au niveau de la suite Office ou encore au niveau de la Xbox, au niveau, par exemple, des environnements de l'échelle d'entreprise, on les prend tous au sérieux et, selon moi, c'est ce qui nous permet de toujours essayer d'innover, de nous dépasser pour s'assurer qu'on offre une meilleure expérience à nos consommateurs que notre compétition. Donc, pour moi, je vois toujours ça d'un bon œil parce que je me dis, c'est comme ça que je vais essayer de me dépasser. Exemple, si demain, les trois, vous êtes ici, il n'y a pas de podcast qui existe sur ce que vous faites, puis vous êtes tout seul, vous êtes dit, on est tout seul, on va le faire, c'est une job, c'est correct, on est les meilleurs, on est tout seul. Ça vous motive pas à vous dépasser. Quand t'en vois un autre qui fait ça, puis tu dis, hey, lui, il est troisième, moi, je suis quatrième, comment je vais être capable de le faire pour être troisième? C'est quoi qu'on va amener comme nouveauté? On va aller chercher des gens de l'extérieur, etc., etc. Donc, la compétition, moi, je trouve ça, c'est sain. Ça va nous permettre réellement de nous dépasser. Puis je leur souhaite bonne chance parce que c'est pas nécessairement facile, mais en même temps, c'est des gens qui ont quand même une crédibilité dans le domaine du jeu. Donc, je serais pas prêt à dire qu'ils seront pas capables.
Et Daniel, tu avais une dernière question plus générale pour compléter?
Ben, en fait, c'est une question classique que je dois répéter depuis à peu près 15 ans, donc depuis le temps que j'ai commencé. Je voulais savoir, toi, Mario, qui a dû en essayer des jeux sur Xbox One, lequel t'a le plus attiré, lequel... Je vais dire ça dans mes mots, lequel a suscité en toi le plus d'émotions?
Moi, la mienne, c'est... là, en fin de semaine, j'ai eu la chance de jouer à certains. Puis moi, je vais te le dire comme ça. Mon film préféré, quand les gens me disent « C'est quoi ton film de tous les temps? » Pour moi, c'est The Gladiator, le gladiateur. Mm-hmm. Et quand je regarde, j'étais un amateur. J'ai trippé sur Spartacus, sur 300. Donc, pour moi, c'est Rise, Son of Rome.
Les gants bédaines, là, tu sais.
Ah, ben non, pas des gants bédaines. C'est pas les gants bédaines, j'en cherche, là. Mais je te dirais que... Ah, t'as regardé le côté graphique, puis en arrière de ça, c'est Crytek, puis on sait la réputation de Crytek. Je trouve ça exceptionnel. Par contre, ça, c'est mon jeu. Je te dirais, c'est celui-là. Puis après ça, dans le futur, mais oui, les Halo de ce monde, Titanfall, qui va être excellent. Puis l'autre que j'ai, qui je suis un maniaque d'automobile, donc moi, j'ai tantôt la question avec les... On va-tu être capable d'utiliser un volant? Mais c'est sûr que moi, j'avais un volant à un moment donné qui était un U, là, comme tel. J'ai adoré là-dessus, puis rouler avec Forza là-dessus, c'était exceptionnel. Donc ça, c'est les jeux sur lesquels que j'attends beaucoup, 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 beaucoup.
Je vais essayer de te pincer, par rapport aux exclusivités, mais des autres consoles, les adversaires, quelle exclusivité que tu dis « Hey boy, que j'aurais aimé ça que ce soit sur Microsoft », quelle exclusivité tu dis « Ah, j'étais peut-être un petit peu envieux, là ».
C'est plate à dire, hein. T'aimeras pas ma réponse. T'aimeras pas ma réponse parce que moi, ça fait 8 ans que je joue à World of Warcraft. Donc, où ce que j'aurais tendance à passer, c'est que je regarde pas la compétition. Je suis réellement, je suis un maniaque d'RPG. Je l'ai joué de toute ma vie. Puis j'en ai encore beaucoup. Puis j'aurais tendance à dire, pour moi, ça serait, je retournerais sur le PC, ça serait World of Warcraft. Donc, la compétition que je regarderais, ça serait réellement pas, mettons, Sony ou encore la Nintendo. Ça serait réellement l'autre côté, ce serait le PC, puis ce serait World of Warcraft.
Ah, bonne réponse.
Mais, tu sais, Mario, si jamais tu as de l'influence, puis que tu peux motiver Lionhead à nous sortir un Fable 4, Fable, là, vraiment, où est-ce que tu vas te sentir que tu as vraiment, vraiment beaucoup d'influence au niveau du monde en tant que héros, je vais t'aimer beaucoup.
Ah, mais je dois avouer, moi, Fable, je l'ai adoré. C'est pas facile d'amener une expérience de RPG sur une console. Donc, s'il y en a un qui l'avait bien fait, c'est bien Lionhead. Peter Molyneux, ce qu'il avait fait avec ça, c'était exceptionnel. Donc, celui-là, là, je sais pas si ça va être quelque chose qu'ils vont faire dans le futur, mais je suis pas en désaccord avec toi.
All right. On s'entend.
La question, je me demandais juste comme ça, il n'y aura pas de rétrocompatibilité sur Xbox 3, sur Xbox One, on le sait, mais est-ce que Microsoft a des plans quand même de ressortir des jeux à travers peut-être le magasin, le Xbox Live Store pour remettre des jeux plus anciens ou vraiment on part sur les nouveaux jeux puis les anciens jeux de 360, on les verra pas sur la Xbox One du tout?
C'est sûr, certain que tu n'auras pas de compatibilité. Donc, tes jeux Xbox 360 ne pourront pas, tu pourras pas les utiliser sur Xbox One. Ceci dit, moi, les gens, il y en a, comme tu disais tantôt, il y en a qui ont des fois une console déjà à la maison. Ils risquent de la garder, puis ils vont jouer avec leur jeu Xbox 360. Je veux dire, c'est un commentaire. Quand on le regarde en ce moment, les gens en général, puis pensez à vous des fois, puis regardez vos copains. Souvent, on va le garder, on est là au cas où peut-être que, puis on réalise que, hey my God, c'est quand la dernière fois j'ai pris un de ces disques-là pour jouer avec ma vieille console ou encore un vieux jeu. Donc, moi, j'ai un beau-frère, là, il les garde tout, puis je me dis, oh my God, puis il touche plus, là. Ça fait comme des années qu'il touche pas à ces jeux-là. Donc, quand tu sors une nouvelle plateforme, je ne veux pas dire c'est 5%, c'est 10%. Le chiffre, il n'y a pas une étude précise qui dit c'est exactement tant, mais c'est un faible pourcentage de gens qui veulent continuer à jouer à leur vieux jeu sur une nouvelle console. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, ben là, à partir de là, on part réellement avec des nouveaux jeux, ou on parle des nouveaux jeux, mais des jeux qui sont réellement là, pour la nouvelle console. Parce que je ne dis pas des nouveaux jeux. Le meilleur exemple, Call of Duty, il est sorti sur 360, puis là, il a été réellement mis à jour pour être sur Xbox One. Donc, ça va être un autre jeu, mais c'est réellement pour la Xbox One.
OK.
On parle d'une durée de vie de combien de temps encore, selon toi, pour la 360?
Ça, j'ai pas de boule de cristal. Je vais regarder ma compétition là-dedans, qui est un bel exemple. La PS2, as-tu duré longtemps?
Oui, pas mal.
Donc, moi, je me dis, puis pourquoi je dis PS2? C'est parce que quand je regarde le succès que la PS2 a eu, la 360, c'est un peu le succès de la PS2, donc pour cette génération aussi. Donc, moi, je pense qu'elle risque de durer quand même un certain laps de temps. Puis il y a encore des jeux 360 qui vont sortir, qui sortent. Donc moi, je me dis, ça se peut que ça dure un certain laps de temps. Combien? Très difficile à dire.
Ça serait pas mal ça pour l'entrevue, à moins que les deux gardements aient encore des questions.
Non, c'est bon, moi, c'est très bien.
Non, c'est correct, j'ai fini de prendre ta place.
Ça va. Yes, j'en prends le contrôle. Un gros merci, Mario, pour le temps que tu as passé avec nous. Ce fut un réel plaisir de discuter de la nouvelle génération, la Xbox One, avec toi. Puis n'importe quand, tu t'invites sur le show, ça va nous faire plaisir de t'accueillir.
Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, messieurs. J'ai trouvé ça super gentil. Puis honnêtement, un des objectifs que j'ai, puis tu sais, Daniel, tu me connais, moi, c'est simple, c'est que le succès de Microsoft, ça passe pas par Microsoft, ça passe par les gens, par nous, qui on est. Puis on veut être proche de la communauté, les gamers, vous autres. Donc, n'importe quoi, n'importe quel moment, vous avez besoin de quoi que ce soit pour nous, pour faire partie présente de votre show, pour vous et vos auditeurs, comptez sur nous, parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut réellement changer cette image de Microsoft, que des fois, les gens pensent « Ah, ils sont loin, ils sont distants. » Non, non, non. On est là, on veut être présent, on veut participer à cet écosystème.
Merci beaucoup, Mario.
Merci Mario.
Merci.
Donc, c'était le directeur régional, parce qu'il me dit pas DG, ça fait rien, on veut pas froisser personne. Directeur régional pour le Québec de Microsoft, Mario Cocoulodzi, qui était avec nous. Un gros merci, Mario.
Merci beaucoup.
Salut. Donc, un gros merci à celui-ci et à Microsoft qui ont accepté de nous l'envoyer. Ils ont été bien gentils.
C'est très gentil. Super sympathique, le monsieur.
Ouais.
Écoute, je vous plug pas n'importe qui.
Ben non, c'est ça. T'sais, du gros travail de terrain. Écoute, merci beaucoup, Daniel, pour là-dessus. Là,
fait
vraiment,
plaisir.
Quand un gars compense, il compense fort.
Oui, ben écoute, il y en aura d'autres invités en passant.
Ben écoute, on est sur une belle lancée, puis c'est le fun. J'aime ça, l'interactivité que ça amène. Donc maintenant, Luc, on va y aller avec toi, avec ton sujet de la semaine. T'étais au cinéma pour écouter le nouveau film de Thor. C'est le monde des ténèbres, hein, le sous-titre.
Mais oui, t'as pas Thor.
Non, j'ai pas.
Thor
Binouche, que je touche à la coche.
Hey, tellement. Non, mais le monde des ténèbres, c'est le titre français de France au Québec. Il l'appelle Thor, un monde obscur.
Oh, oh.
Fait que c'est ça. C'est plus proche du site original qui est The Dark World.
Ben, tantôt, je suis passé devant un cinéma, puis c'était juste Thor.
Ouais, c'est ça. Thor 2, puis ça fait un job. T'sais, on pourrait y aller avec ça.
Non, il n'y avait même pas de 2, c'était Thor.
Ouais, c'est ça. À un moment donné, on coupe ça. Ça coûte cher, les lettres, pour mettre sur l'affiche.
Quoi. Absolument.
Ouais, c'est ça. Il y a un cinéma chez nous, c'est même plus marqué le titre des films. C'est marqué, appelez-nous, tel numéro, ouvert à partir de telle heure. Des fois, on va au cinéma, je dis à ma femme, hey, ça a l'air bon, ça, ce film-là, ouvert à partir de midi. On va-tu voir ça? Mais bon. Oui, Thor, le monde des ténèbres, ou plutôt un monde obscur, titre québécois. J'étais voir ça vendredi passé avec un copain. On est allé voir ça en Ultra AVX chez Cinéplex Odéon. J'espère que le chèque est normal. Je vous plug.
Ultra AVX.
Ouais, Ultra AVX, le plus gros écran, le son vraiment de partout. Donc, Thor, si vous vous dites, bon, ben c'est la suite du premier Thor, c'est plus ou moins vrai. C'est plus la suite de The Avengers, les Vengeurs. On a vraiment suivi après l'histoire des Vengeurs, donc l'attaque sur New York par les extraterrestres, tous les événements du film Les Vengeurs ont été inclus, on en parle dans ce film-là, donc c'est vraiment plus la suite des Avengers que...
Autrement dit, ça se passe à peu près en même temps que Iron Man 3.
Ouais, à peu près dans ce même temps-là, peut-être un peu après. On référence pas vraiment Iron Man ou ce film-là du tout, mais on référence à les Vengeurs. Donc on sait que ça se passe après. On imagine que ça se passe peut-être après Iron Man 3, parce que normalement Marvel s'en va. Ça, c'est la phase 2. D'où ils veulent s'en aller là, dans leur histoire, dans leur univers Marvel. Ils s'en vont vers ça, qui devrait finir avec les Avengers 2 dans quelques années. Là. Mais bon, donc Thor, c'est quoi? C'est avec qui? C'est Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Donc, mesdames, celui que vous aimiez dans le premier Thor est de retour. La charmante Natalie Portman, ça c'est plus pour moi. Tom Hiddleston revient dans son rôle de Loki. Et
celui-là, il est pour moi.
Ah, celui-là,
non, c'est pas vrai.
Tu peux le prendre si tu veux. Non, mais vraiment.
Sors du garde-robe quand tu veux, Dan. On va t'accepter pareil.
Ouais, on t'aime pas.
Et j'ai une madame là-bas aussi qui va m'accepter. Mais continue, Luc.
Tom Hiddleston qui revient dans son rôle de Loki. Et franchement, c'est le meilleur acteur du film.
Ben oui.
Ce gars-là est vraiment incroyable. Puis je suis sorti du cinéma, puis j'ai dit à Aaron Mitchum, j'ai dit, sais-tu dans quoi je le verrais, Tom Hiddleston, s'ils refont un autre reboot de Batman, le Joker? Moi, j'y ferais jouer le Joker, ce gars-là. Il a le sourire sans même avoir besoin de maquillage ou de prothèse pour l'exagérer. Il a le sourire, il a la face pour jouer le Joker, ce gars-là. Donc, si quelqu'un m'écoute chez DC...
Moi, j'ai l'impression que c'est un acteur qui intellectualise pas mal son personnage, qu'il décortique au point de tout comprendre les différentes facettes, puis chacune des mimiques, chacune des répliques qu'il va dire, la façon qu'il va les dire, c'est presque mathématique comme façon de camper le rôle. Il a vraiment bien repris l'esprit de son personnage. Il a fait une vraie belle job. Ça aurait pu être risible. Écoute, le gars, il a des cornes à l'envers son casque, tu sais. Ça aurait pu être une joke, là. Mais non,
ça devient moins sérieux quand il met son espèce d'habit avec
de
le
boucle,
casque, ou le casque de boucle. Ça rend le rôle un peu moins... on dirait qu'il est moins peurant quand il a son casque que quand il l'a pas. Puis c'est juste son visage qui veut avec lequel il montre ses émotions. Mais c'est un gars qui n'a pas besoin de rien dire. Il va juste faire une face puis tu comprends que ce personnage-là est vraiment, là, c'est un visage à deux faces. Il peut faire à croire qu'il est de ton bord, puis il l'est pas du tout, ou tu peux pas savoir en le regardant si tu peux y faire confiance ou pas. Puis c'est un peu la thématique de ce film-là. Donc, on retrouve Thor après. Bon, comme je disais, les événements des Avengers, il a disparu pendant un bon bout de temps. Le personnage de Natalie Portman, Jane Foster, l'a pas revu depuis un bout. Puis là, elle est un peu déchirée par le fait qu'elle l'aime. Mais bon, elle l'a pas revu depuis la bataille de New York, même si elle savait qu'il était là. Puis elle est un peu frustrée qu'il a pas pris le temps de venir la voir après les événements de New York. Puis il est reparti chez eux. Mais on sait, bon, le Bifrost avait été détruit. Il pouvait pas nécessairement revenir sur Terre facilement, puis il fallait qu'il ramène Loki là-bas, donc c'est un peu les raisons pourquoi il n'était pas revenu. Donc, on retrouve Thor en train de se battre pour garder la paix. C'est drôle de se battre pour garder la paix, mais c'est un peu ça qu'il fait. Il se bat pour garder la paix, juste pour... le film commence, on voit la bataille avec les elfes noirs qui sont vraiment une race qui veut juste dominer la planète, dominer même les neuf mondes de l'univers de Thor. Il y a neuf royaumes, puis il veut vraiment dominer les neuf royaumes. Une fois à peu près 1000 ans, les neuf royaumes s'alignent, ça rouvre un espèce de portail qui fait qu'on pourrait voyager facilement à travers les neuf royaumes sans avoir besoin de rien de spécial. Vraiment, la porte s'ouvre, puis on est capable de passer. On voit le film commence avec une bataille assez épique entre les elfes noirs puis les Asgardiens, qui est la race de Thor, qui vient de l'univers de Thor. Puis, il essaie d'arrêter l'elfe noir de ramasser ce qu'on appelle l'éther, qui est une espèce de liquide qui ressemble un peu à quand le Terminator 2 se change un peu, une espèce de fil de liquide qui se promène dans les airs. Ça, c'est un peu risible, au moins dans les Avengers, le Tesseract, c'était un cube d'énergie, on voyait que c'était quelque chose qui avait l'air puissant. Ça on dirait vraiment comme si on était dans l'espace, mettons, puis on laissait de l'eau dans les airs. C'est un peu comme une colonne d'eau qui se promène. Donc ça, c'est une colonne d'un produit un peu rouge, puis ça s'appelle l'éther. Puis supposément que l'éther, c'est hyper puissant, puis s'il relâcherait ça dans les neuf royaumes, quand la porte se rouvre, ça pourrait détruire les neuf royaumes, puis il pourrait s'emparer du pouvoir et tout ça. Donc les Asgardiens arrivent, l'empêchent de faire ça, et puis cachent, en détruisant à peu près la totalité de son armée, puis cachent l'éther sur leur planète, là, à Asgard, pour la protéger, pour empêcher les elfes noirs de la récupérer. Bon, fait que là, on retourne là, on voit Loki qui passe un procès devant son père, puis qui se fait mettre en prison, en cellule avec d'autres prisonniers. Puis c'est vraiment drôle, à chaque fois qu'on voit Loki, on sait qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il est juste magique à l'écran, ce gars-là, mais son personnage, il est assis dans sa cellule tranquille, puis là, les Asgardiens amènent plein de personnes qui ont capturé, qui vont se faire emprisonner de guerres qu'ils ont faites ailleurs, puis ils disent « Ah, vous m'amenez des nouveaux amis. » Tu sais, il va juste faire des commentaires un peu bizarres avec un sourire, tu sais, en disant « Bon, mais au moins, je suis plus tout seul dans prison. » Même s'il y a sa cage à lui tout seul, puis les autres sont dans une autre place. Fait que, il va rester emprisonné. À un moment donné, bon, c'est sûr, on voit un peu les choses venir, les Asgardiens, ou le roi des Asgardiens, qui est le père de Thor, va tout simplement dire « Ben non, ils sont tous morts, les elfes noirs, je les ai tous tués. » Mais non, on le sait qu'il en reste un, même deux. Ils vont revenir pour se venger, ils vont venir pour reprendre l'éther, et puis ils vont réussir à se sauver avec. Et puis là, Thor n'aura pas le choix de s'allier à son frère Loki pour essayer de vaincre l'elfe noir puis récupérer l'éther pour pas qu'il détruise les neuf royaumes. Parce que même si Thor puis Loki ne s'entendent pas, ils ont quand même pas l'intention de tout mourir dans la destruction totale des neuf univers par un fou furieux avec l'éther.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est un peu ça.
C'est ça. Donc, Thor et Loki vont s'associer pour essayer de retrouver ce pouvoir-là, l'éther, puis le ramener pour le garder, puis surtout l'enlever des mains de l'elfe noir. Donc, l'histoire, c'est à peu près ça. C'est vers là qu'on s'en va. Il va y avoir des combats épiques. Il va y avoir des scènes vraiment succulentes. Juste, Thor ne peut pas juste s'en aller avec Loki comme ça parce que c'est un prisonnier. Son père ne veut rien savoir, qu'il aille sauver, justement, qu'il aille rechercher les elfes noirs qui restent parce que dans sa tête, il est vraiment borné. Il n'y en a plus d'elfes noirs. On les a tous tués. Ça ne sert à rien que tu ailles les chercher. Il n'y en a pas d'autres. Mais on le sait, puis lui, il sait. Et il a l'air à se douter qu'il en reste un, puis il reste une menace encore. Fait qu'il fait évader Loki de la prison pendant une attaque. Fait qu'il se sauve, mais il peut pas se laisser voir. Il peut pas laisser croire à son père que c'est lui qui l'a sorti. Donc, il y a vraiment une scène vraiment, vraiment drôle en s'en allant pour s'échapper. Loki va se transformer en différentes choses pour essayer de passer pour d'autres personnes. Il va se transformer, lui, en fille à un moment donné en disant à Thor, est-ce que t'aimes mieux ça? Il va à un moment donné transformer Thor en un autre personnage en disant, bon, ça, est-ce que ça fait ton affaire? C'est vraiment bien fait. Oui, il y a toujours un caméo de Stan Lee. Restez attentif. Il n'est pas nécessairement évident à voir, mais vous allez le voir à un moment donné. Il va faire une phrase comme il fait dans chaque film de Marvel depuis le début. Est-ce que c'est un film qui vaut la peine d'être vu au cinéma? Je pense que c'est une nette amélioration du premier Thor. On a travaillé sur l'histoire, on a travaillé sur les personnages. Bon, c'est un peu cliché que Jane Foster se fasse mêler un peu dans l'histoire de l'éther parce qu'elle fait des recherches, puis il trouve une espèce de place en Europe. Je pense que c'est à Londres où la gravité est comme plus existante dans une espèce de bâtisse abandonnée, et même s'il y a un portail qui rouvre, donc il lance des choses, il lance une canette, la canette tombe vers le bas, puis au lieu de frapper le plancher, elle disparaît, puis elle réapparaît dans le plafond juste au-dessus d'eux autres. Fait que là, la canne, elle passe en avant d'eux autres comme 20 fois. C'est comme si elle revenait par en haut en passant dans le portail. Fait qu'elle sort en bas, elle rentre en haut. Un peu comme quand on joue à Portal, puis on ouvre deux portails, puis on fait tomber un cube, puis le cube passe en bas, puis il revient, puis il nous passe d'en face comme 20 fois, parce que le haut, c'est aussi le bas, l'entrée du haut. La sortie d'en bas, c'est aussi l'entrée d'en haut. Fait que c'est vraiment spécial. Il y a des blagues aussi qui se font là-dedans. Les personnages de soutien sont plus utilisés. La stagiaire qui est avec Jane Foster a un plus grand rôle dans ça. Même la stagiaire a un stagiaire. Ça, c'est vraiment poussé à ce point-là. C'est un film qui est drôle, même si la prémisse est sombre. Là. T'sais, on parle de destruction complète de l'univers, où il y a des batailles épiques. C'est vraiment un film qui va vous garder probablement en haleine puis intéressé tout le long. Il n'y a pas vraiment de bout qui est long, même si à un moment donné, il y a des scènes avec Jane Foster qu'on aurait pu s'en passer peut-être. Là. Ça rallonge le film pour rien. Mais c'est un film qui est quand même intéressant, qui vaut la peine d'être vu au cinéma si vous pouvez vous déplacer. Le 3D est bien utilisé pour la profondeur, pas juste pour nous mettre des choses d'en face. Donc, j'ai trouvé ça bien. C'est pas, ça n'a pas l'air juste d'une gimmick pour vendre les billets plus chers. Ça a été bien utilisé. Les effets spéciaux, on est rendu à un point où on a presque plus besoin d'en parler. Là. C'est presque rendu photoréaliste. C'est vraiment super bien fait. Donc, un bon produit, un bon deuxième film pour Thor. Même, je dirais que c'est plus intéressant que le premier. Donc, déplacez-vous, allez voir ça. Je vous dirais, 8 sur 10.
As-tu l'impression que l'elfe noir s'imbrique bien avec l'univers de ces super-héros-là? J'essaie de voir où est-ce qu'il se place dans tout ça. Comment ça se fait qu'il ne demande pas l'aide, Thor, des autres super-héros pour aller l'aider? Comment est-ce que ça réussit à s'imbriquer en solo?
Ben, c'est un peu ce qui est... on le sait quand on l'écoute, le film, nous, qu'on se dit s'il avait mis toutes les mêmes super-héros que dans Les Vengeurs, ça aurait coûté une fortune à faire le film parce que tout payer les acteurs, ça n'aurait pas eu d'allure. Mais Thor n'est pas nécessairement tout seul. Il y a l'armée asgardienne, il y a ses amis asgardiens avec lui. C'est pas nécessairement comme Capitaine America qui est plus vraiment tout seul, même si dans le prochain film de Captain America, la veuve noire va être avec lui, mais il n'est pas vraiment tout seul non plus, puis il était quand même assez puissant, c'est quand même un dieu.
Oui.
Donc, t'as pas vraiment de besoin, il n'y a pas vraiment de place où tu te demandes, ouais, mais pourquoi qu'il n'a pas appelé Tony Stark pour venir l'aider, t'sais. Ça se tient quand même bien tout seul. L'elfe noir, bon, c'est un peu... Moi, j'ai pas été un grand fan des comic books de Thor, j'en ai pratiquement pas lu.
Ouais, j'en ai lu quelques-uns, c'est un univers qui me rejoignait moins.
C'est ça, mais tu sais, dans la série des Vengeurs qui était à la télévision, on a un peu des elfes semblables à un moment donné. Donc, c'est pas quelque chose qui est totalement étranger. On regarde pas ça, on me disait, ouais, tu sais, ça prenait vraiment un méchant, puis ils ont rien trouvé de mieux que mettre ça. Il est convaincant, il est bon dans son rôle, le gars qui fait ça. Donc, c'est vraiment bien. Comme je dis, j'ai pas vraiment accroché sur rien de, ouais, ça, j'aurais fait ça autrement, tu sais. C'est bien. Même, je regardais la bande-annonce, puis j'étais pas tout certain. On voit à un moment donné le vaisseau, un espèce de gros morceau de métal ou de pierre qui vient arracher une partie de la ville. Puis là, je me dis, ah non, ils partiront pas avec venez faire attaquer des affaires qui ont aucun sens puis venez détruire la ville de partout. Non, non, c'est un vaisseau. Il n'y en a pas 50 000 puis ça attaque pas de partout. Donc, c'est bien quand on le regarde, ça m'a comme, ah, OK, c'est juste ça qu'ils font avec ça. Quand je regardais la bande-annonce, j'étais pas certain d'où ils s'en allaient avec ça. Quand on regarde le film, c'est bien, là. Ça a été bien fait. L'histoire est bonne. On embarque. C'est un film à voir. Là. Si vous aimez l'univers des super-héros, puis Marvel surtout, c'est bien à voir. Puis il y a des petits caméos, des petits clins d'œil à d'autres personnages. Mais ça, je vous le compte pas. Vous le verrez par vous-même.
C'est correct. Tu sais, regarde-nous-en. C'est peut-être un peu moins familial, moins grand public que les autres. T'as quand même un univers assez particulier.
Ben, c'est pas nécessairement pire que d'autres choses. En fin de semaine, j'ai initié mon garçon de 7 ans aux Vengeurs. Puis je me rappelais pas que dans certaines scènes, c'est quand même assez hardcore. Il y a quand même des choses assez violentes. C'est à peu près pareil dans Thor. C'est pas un film à nécessairement éviter aux enfants, mais faut qu'il aille l'âge au moins de comprendre que, regarde, c'est tout pas vrai, là. T'sais, c'est un film, là. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu vas voir. Si on lâche de faire la différence entre le vrai et le faux, je te dirais que c'est un film pour la famille. Mais peut-être en bas de 8-9 ans, c'est peut-être un peu dur encore pour eux. Là. Mais c'est pas si pire. C'est un divertissement familial quand même potable. Là.
Un solide 8.
Pas un dessin animé, là, mais...
Un solide 8, donc c'est correct.
Oui, ouais, un solide 8. Il y a des petites choses, c'est... que j'aurais fait différent. Il y a des scènes qui sont un peu longues. Ce qui est plate un peu, c'est que de la manière qu'ils ont fait la bande-annonce, il y a une scène, bon, vous avez vu la bande-annonce, c'est pas un spoiler, là. Vous voyez à un moment donné, Thor est dans une bataille, puis là, il y a une espèce de gros monstre en roche qui s'en vient, puis là, tout le monde se recule, puis il dit, ben, tu sais, celui-là, il est à toi. Il fait tourner son marteau, il lance d'en face, il tombe en morceaux, puis il tombe à terre, puis là, il demande aux autres, bon, y a-tu d'autres intéressés, tu sais. C'est une scène qui aurait été tellement plus drôle si on ne l'aurait pas vu 50 000 fois
ouais. Dans
la bande-annonce. Puis c'est un peu ce qu'il m'a dit, puis ce qui m'a un peu fatigué, c'est que présentement, puis c'est pas juste pour Thor, les bandes-annonces, on en montre trop. Je comprends qu'on veut vendre le film, puis on veut que les gens aillent le voir, mais c'est pas une bonne manière de vendre le film, parce que, puis je me souviendrai à mon chum avec qui je vais aller voir le film, je me suis dit, la scène aurait été tellement plus drôle si je l'aurais pas déjà vu 50 fois, tu sais.
Moi, c'est, écoute, depuis Batman, le dernier, là, avec le trailer qui avait la scène du stade qui se faisait effondrer à cause de Bane, là, moi, depuis ce temps-là, j'essaie d'éviter les trailers le plus possible, là. Puis pour vrai, j'y arrive relativement bien. Je décide, ah, écoute, je vais voir peut-être les critiques, un peu, tout ça, mais avant que le film sorte, j'essaie de m'y intéresser le moins possible, parce que justement, c'est un peu une mode, on en montre tellement dans les trailers que t'arrives dans le film, puis ça n'a plus le même impact. Imaginez d'avoir vu Batman sans savoir que cette scène-là survient. L'impact émotif que ça donne, ça démontre le chaos que Bane est capable de faire dans la ville de Gotham. Puis tu te rends compte que okay, le gars, il connaît la business, il sait comment chambouler tout ça, cet univers-là. Il est capable de shaker la planète au complet s'il le désire. Ça a un impact narratif. Puis là, ben, en l'ayant vu dans le trailer, t'as plus rien, tu fais comme, ah, OK, il y a un stade, il y a Bane, ça s'en vient. Tu sais, tu fais, ben voyons.
T'sais. Ouais, c'est ça, tu sais que ça s'en venait, c'est ça.
Mais il n'y a pas rien que ça. Je veux dire, une bonne annonce en tant que telle, c'est faite pour vendre le film, mais souvent, ben pas souvent, mais ben, disons à quelques reprises, ça peut te vendre une fausse idée du film.
En plus!
Aussi. Et moi, je m'excuse, là, je sais qu'il y en a qui ont aimé Man of Steel, mais en tant que gros fan de Superman, je n'ai pas aimé ça, pas tout. Puis, tu sais, pourtant, la bande-annonce laissait présager quelque chose de vraiment bien, mais en tant que fan de Superman, j'ai été super déçu, puis pourtant, je pensais qu'on allait plonger plus dans la psychologie que Superman. Finalement, on s'est contenté de péter une ville au complet.
Oui, c'est beau ça. Il y a le dernier Spider-Man aussi, tu sais, la bande-annonce semblait être hyper dark, hyper... Oh, j'ai des émotions, je suis tombé peiné, mon oncle est mort, ma famille... Finalement, écoute, le gars, il est super funny, il est super comme happy de la vie. Là, tu fais comme, OK, c'est pas ce qu'on m'a vendu, tu sais.
Effectivement.
Il est troublé par bout, là, mais pas autant que la bande-annonce semblait vouloir le montrer.
Il fait du skatepark, hein, ouais, tu sais, c'est un ado comme... Sans dans le joke avec ses chums, puis il vit une transformation, mais il est pas dark et t'sais, en train de sombrer dans la dépression comme dans la bande-annonce. Fait que des fois, oui, on nous vend complètement un film différent.
Je trouve ça plat, parce que bon, récemment au cinéma, on sait que c'est ce qui a plus pogné, hein. T'sais, les héros qui vivent des moments difficiles, t'sais, le côté plus obscur, finalement. On essaye de plus l'explorer. Fait que c'est ça qu'on nous vend dans les bandes annonces. Puis des fois, tu te retrouves avec un film qui est limite funny, t'sais. Là, t'es comme, OK, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Puis dans le fond, j'ai payé pour quelque chose que je m'attendais à avoir, soi-disant, par les promesses de la bande-annonce. Puis là, c'est plus ça, tu sais. Fait que... En tout cas, moi, je sens qu'on viole mon cerveau dans ce temps-là.
Hey boy, tu y vas pas de main morte.
Non, mais ça marche pareil. Mais jusqu'à quel point que Marvel, présentement, a besoin de te vendre le film. T'sais.
Exact.
Il pourrait juste te mettre un 15 secondes de Thor, le monde obscur, puis en salle telle date, puis je veux dire, le monde irait là. Ils sont sur une lancée présentement. Regarde, le film a coûté 170 millions, il a fait 342 millions, il est sorti vendredi passé.
Ouais, c'est un problème. T'sais, sont-ils vraiment inquiets que ça va être rentable? Non, là.
Mais en même temps, Marvel est capable du meilleur comme du pire. Hein? Je vais vous nommer deux films, Daredevil et Elektra.
Ben, écoute, ouais, mais là, on recule loin. Là.
Moi, je vais probablement être le seul au monde, là, mais j'aime le film de Daredevil.
Il est pas si pire, mais...
Non, Elektra, on va se le dire, c'est de la boîte, là, mais Daredevil, ça... correct, là. C'est à la hauteur du personnage, là, tu sais. C'est un gars aveugle avec des collants rouges puis qui, tu sais, qui est avocat. Tu sais, ça dépend comment tu veux l'amener, le personnage. Moi, j'ai aucun problème avec ce film-là, là.
Mais Elektra était quelque chose, là.
Ouais, ouais.
Et, en tout cas.
Mais tu vas être content. Ben Affleck va être Batman dans le prochain film de Batman versus Superman.
Ben, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, sincèrement, je suis curieux, mais comme je te dis, aucune bande-annonce. Moi, j'ai arrêté. C'est rendu presque un modus operandi pour moi. Là. Je ne regarde pas les bandes-annonces. Je me garde les secrets. Mais j'ai hâte de voir ce que Ben Affleck va être capable de faire. Autant dans sa carrière d'acteur, peu importe, le film, il était capable du meilleur comme du pire. En espérant que ce soit un bon. Là.
Ouais, on va voir.
Je l'ai jamais trouvé si pire que ça, moi, Ben Affleck. C'est drôle, je suis peut-être le seul au monde, mais je l'ai jamais trouvé si pire que ça. Je sais pas pourquoi le monde l'aime pas, mais moi, me dire, tu sais, quand je vois Ben Affleck à l'affiche dans un film, moi, ça me rebute pas, tu sais.
Non, non. C'est correct.
C'est bien correct, là. Alors, dans Argo, moi, je l'ai trouvé très bon.
Ouais.
Puis il y a plusieurs autres films où je l'ai trouvé bien, bien, bien correct.
Dans Daredevil.
Moi, je trouve qu'il a livré quand même une bonne performance.
Écoute, il fallait qu'il joue un aveugle. C'est pas évident, là. T'sais.
Non, tout à fait. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, je donne la chance au coureur. De toute façon, moi, ma blonde, elle va capoter. C'est sûr qu'elle va vouloir aller le voir. Tu sais, tu vas voir Henry Cavill puis Ben Affleck, tu sais. Quand même...
Hey, en chess, ce beau monde-là, hein?
Oublie ça, là, elle se pourra plus.
hâte de voir ça, mais juste comme ça, il y a un podcast. Bon, c'est pas pour tout le monde, là, c'est vraiment hardcore puis vulgaire, mais il y a un podcast qui s'appelle Hollywood Babylon, qui est fait par Kevin Smith, qui est producteur de films.
C'est pas pis, Silent Bob, ça?
Ouais, Silent Bob, de Jay and Silent Bob, puis... Il a fait Red State aussi, puis il est en train de faire un film qui s'appelle Tusk, qui est à propos d'un gars qui change un autre gars en walrus,
en
éléphant des mers, on a fait le même, là, en tout cas, ça va être spécial. Mais il était sur un panel où il y avait bon Henry Cavill, puis toute la gang de Superman, pour justement pour la sortie du film en Blu-ray que j'ai acheté, puis j'ai pas vu le film encore. Mais moi aussi, j'étais un fan fini de Superman, fait que je l'ai acheté, puis je vais le regarder. Mais ils ont fait un panel là-dessus, puis ça a l'air, après le panel... Snyder, qui est le producteur du film, l'a amené de côté, puis il a dit « Regarde ça sur mon téléphone cellulaire », puis c'était une photo de Ben Affleck dans son costume de Batman pour le film. Puis ça a l'air qu'il a été flabbergasté parce que le costume avait l'air, puis par même le look de Ben Affleck dans le costume.
OK.
Selon ce qu'il a dit...
Hey, un bas de face, hein, c'est impressionnant.
Ouais, c'est ils ont caché son plus gros problème, sa face. Non, mais selon ce qu'il a dit, c'était un costume qui était très, très proche de l'univers des comic books.
OK.
Donc, un costume plus bleu. Qui a l'air tissu gris et noir, plus que ça a l'air d'une armure et tout ça. Donc, ça a l'air que ça augure bien. Mais bon, t'as beau avoir un beau costume. Même si je m'achète un tuxedo, ça me fera pas paraître plus slim et beau. T'sais.
Ouais, mais mets-toi un masque.
Ben là, ça change tout.
Hey, on organise ça, le bal masqué réalité augmentée.
Ah, c'est ça.
Ça pourrait être cool, éventuellement. C'est
toujours
un autre
bon de
projet.
Faire un podcast masqué.
Oui, non, c'est ça. bon, ben écoute, suite à cette discussion-là, je pense que toujours intéressant, c'est le fun de se laisser aller sur un sujet, mais je pense qu'on va mettre fin là-dessus à l'émission de cette semaine. Les gentils garnements que vous êtes, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web? Allons-y avec toi, Daniel, en premier.
Ben, en fait, aux deux mêmes places que d'habitude, donc, et non, je ne parle pas du ciel, là, je ne suis pas Dieu, désolé si vous avez écouté la dernière émission puis que vous avez adressé vos prières à moi en regardant le ciel. Non, c'est sur Twitter, DracoADG. Aidez-moi, j'aime toujours ça avoir des followers et souvent je follow back. Sinon, sur Affaires de gars, donc plusieurs articles encore à venir, je devrais d'ailleurs en écrire plus prochainement.
Yes, Luc!
Moi, c'est simple. Sur Twitter, c'est Ascalazormo. Fait que si vous voulez m'écrire, vous pouvez me rejoindre là. C'est pas mal ça. J'ai plus d'autres contenus à sortir. Si vous avez rien à écouter, j'ai 22 épisodes d'Histoire de Gamer disponibles pour vous. Si vous voulez écouter ça dans l'auto ou en vous endormant le soir ou je sais pas, peu importe. Il y a toujours ça. C'est disponible sur le cjuap.com ou sur iTunes. Et toi, JB?
Ben, vous pouvez me retrouver dans mon compte personnel sur Twitter, @gangj_b. Sinon, je gère les comptes officiels de la réalité augmentée, autant sur Facebook que sur Twitter, @realitéog. Et je vous lance l'invitation, ça vous tente d'avoir l'air vraiment là, habillé comme des dieux. On a maintenant une boutique sur laquelle on vend des t-shirts à l'effigie de la réalité augmentée. Je mets toujours le lien là, sur les articles là, sur la zone technoculturelle ainsi que sur Affaires de gars. Donc, suivez le lien et il y a une petite part de l'argent là, de l'achat du gaminet en question qui nous revient. Donc, si ça vous tente d'appuyer la réalité augmentée, c'est une belle façon de le faire. Sinon, ben, parlez-nous, partagez-nous, jasez de nous à vos amis, à vos copains, à votre famille. Faites-nous connaître. Et comme cette semaine, des beaux invités, on en aura d'autres dans les semaines à venir. On a plein de belles surprises pour vous autres. D'ailleurs, on va avoir une belle invitée la semaine prochaine, Julie Gagnon de Nintendo, qui va être sur l'émission pour nous parler des prochains titres qui s'en viennent chez Nintendo. Donc, c'est encore une fois Daniel, notre gars de PR, de connexion, de jasage dans les coulisses, qui nous a plugué avec Madame Gagnon pour venir sur l'émission. Un gros merci, Daniel.
Ça fait toujours plaisir, Jean-Benoît. Écoute, à un moment donné, je vais finir par me flatter.
C'est, comme on disait, quand un gars compense, il compense fort.
Ah, exact.
Oh boy, oui.
C'est donc un rendez-vous pour le prochain épisode et éventuellement, on jasait de Batman. Éventuellement, on va faire un spécial Batman dans la réalité augmentée. à ne pas manquer dans un éventuel épisode de votre programme préféré. Un gros merci des gentils garnements d'avoir été sur le show encore une fois cette semaine et de m'endurer à la barre de ce podcast. Et merci à vous les auditeurs et on vous dit à une prochaine fois dans la réalité augmentée. Salut tout le monde.
Bye. Ciao.